Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette derrière le micro pour les 30 prochaines minutes. Je suis là pour vous accompagner à travers cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Vous dire tout d'abord qu'au Canada, il y a 75 % des jeunes de 11 à 25 ans qui ont des problèmes de santé mentale et qui n'ont pas accès à des services adéquats. J'entends par services adéquats des délais d'attente qui sont humains, qui sont raisonnables, et également des services accessibles de façon simple, de façon facilitante, je dirais, ce qui n'est pas le cas en ce moment au Québec. Et pour des jeunes qui sont déjà fragilisés, déjà vulnérables, c'est un petit peu décourageant et on peut comprendre qu'ils ont parfois envie de laisser, d'abandonner l'aide qu'ils souhaiteraient et dont ils auraient bien besoin. Les chercheurs du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal souhaitent mettre sur pied un programme afin d'améliorer l'accès des adolescents et des jeunes adultes à des services de santé mentale, et ce, à l'aide des nouvelles technologies. On le sait, ces technologies sont souvent familières, aisées pour les jeunes adultes, donc ça peut être une avenue fort intéressante. J'en parlerai tout à l'heure avec Shalini Lal, elle est chercheuse justement à ce centre de recherche du CHUM et également professeure à l'Université de Montréal. Également, vous parlez d'un sujet qui devrait vous interpeller parce qu'il touche fort probablement quelqu'un de votre entourage, que ce soit un collègue, une amie ou encore votre enfant, vous-même, qui... Je ne serais pas étonnée et j'ose l'affirmer, et ce, sans trop de risques, parce que les allergies, ça concerne 2 milliards de personnes, et ce, partout dans le monde, qui pourraient déjà avoir été touchées dans leur vie par une allergie, que ce soit une allergie de contact, une allergie alimentaire. Ça fait du monde sur cette planète. Et de plus, on s'attend l'allergie que ça devienne une maladie de plus en plus fréquente là, dans les 30 prochaines années. Quelles sont les causes? Comment prévenir? Quels sont les traitements? On en parle dans ce tout nouveau guide, le guide complet des allergies. C'est sorti chez Édito et adapté, un ouvrage d'abord français, adapté par deux médecins d'ici. Je parle à l'un d'eux à l'instant, docteur Jean-Nicolas Boursicot. Docteur Boursicot, bonjour.
Bien le bonjour.
Bienvenue, parce que vous nous venez de loin, de Québec.
Bien, écoutez, loin est un grand mot. 2h30 de route, ça se voyage bien. Très bien, oui.
Docteur Boursicot, vous êtes allergologue, également immunologue, clinicien du côté du CHU de Québec. Et là, pour nous parler de ce guide que je qualifierais quasi de bible des allergies, fort complet, assez costaud, 300 pages d'informations sur les allergies. Et ça concerne bien des spécialistes de la santé, des pédiatres, des pneumologues, dermatologues, ORL se sont joints à cet ouvrage. Et je me dis, est-ce qu'il y avait urgence d'agir autour d'un problème qui semble de plus en plus concerner les gens?
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on connaît tous quelqu'un dans son entourage qui souffre d'allergie si on n'en souffre pas soi-même. Vous savez, l'allergie au sens large touche environ 25 % de la population mondiale. Donc, au Québec, on pense que près de 2 millions de gens souffrent d'allergies, soit respiratoires, alimentaires ou autres. Donc, devant la recrudescence des allergies et un traitement assez important qu'on a eu dans les médias, que ce soit au courant des émissions de télé, on en parle de plus en plus des allergies, c'était important de mettre à jour une référence en français et adapté pour le Québec. Ma collègue et moi avons saisi l'occasion et l'opportunité d'adapter pour les Québécois et les Québécoises un ouvrage qui est paru en France en 2014.
Parce qu'on en parle de plus en plus, mais pas nécessairement de mieux en mieux, et de là l'importance de véhiculer de l'information qui est vérifiée. On en parlait tout à l'heure, allergie, c'est un terme maintenant que l'on entend souvent, peut-être un petit peu galvaudé, hein? On est allergique à ci, à ça, et parfois, c'est pas nécessairement le cas. Ça peut être des intolérances, des inconforts liés à certaines choses. Comment on peut affirmer que l'on est réellement allergique?
Donc, tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, le terme allergie est utilisé à toutes les sauces. On se dit allergique au parfum, on se dit allergique au gluten, on se dit allergique à l'iode, on se dit à la limite même allergique à son conjoint ou à sa conjointe. Oui. Alors, vous comprenez que c'est un terme qui est utilisé et peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, il faut revenir au concept clé, entre autres. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut distinguer l'allergie d'une intolérance. Donc là, on est du point de vue alimentaire. Donc, une allergie, on peut la définir comme étant une réaction de notre système immunitaire, une réaction qui est inapproprié, qui n'est pas souhaitable, qui est indésirable. C'est une réaction donc de défense et de protection vis-à-vis une substance qui est pourtant non dangereuse, qui est non pathogène, qui va porter donc le nom d'allergène. Mm-hmm. Un allergène peut être inhalé, peut être respiré. On pense au pollen, on pense aux squames d'animaux, on pense aux moisissures, mais c'est des allergènes qui peuvent être également ingérés, que ce soit un médicament, un aliment. Et à la limite, les allergènes peuvent être injectés. On pense ici aux venins d'hyménoptères. Les hyménoptères sont les insectes qui, lorsqu'ils piquent, vont injecter un peu de venin. Donc, les frelons, les guêpes et les abeilles.
Et lorsque l'on parle d'allergie de contact, on s'attend à quoi?
Alors, l'allergie de contact, on préfère le terme dermatite de contact. Donc, dermatite, c'est une inflammation de la peau qui peut être due à certains contacts, soit avec des cosmétiques, des textiles ou même certains matériaux. Un des exemples les plus connus, c'est la dermatite de contact allergique au nickel. Donc, mm-hmm. vous connaissez probablement mm-hmm. des gens qui ne peuvent pas porter des bijoux de fantaisie, que ce soit au niveau des oreilles et même certains piercings, parce qu'il risque d'y avoir une réaction inflammatoire au niveau de la peau. Donc, c'est triste à dire, mais ces gens sont condamnés à porter des bijoux qui n'ont pas d'alliage de nickel, donc condamnés à porter de l'or, du platine ou de l'argent, mm-hmm. ce qui peut coûter cher.
Docteur Boursicot, ce que révèle ce livre, en tout cas du moins, ce qui m'a frappée, c'est cette... En fait, j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont allergiques. Et d'ailleurs, les chiffres sont assez révélateurs en ce sens qu'on nous dit que dans 30 ans à peu près, 50 % de la population de l'humanité pourrait être touchée par une allergie. Qu'est-ce qui explique ça?
Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la croissance assez phénoménale des allergies. On pense entre autres aux facteurs environnementaux. Notre style de vie a également changé. On pense que la pollution, par exemple, serait un facteur qui pourrait expliquer pourquoi on se sensibilise davantage aux allergènes que l'on respire, mm-hmm. donc les pollens, les moisissures et les animaux. Du point de vue alimentaire aussi, avec toute la transformation des aliments, l'industrie agroalimentaire a peut-être malheureusement facilité l'apparition et l'émergence d'allergies de ce côté. Vous savez, dans certains pays où si on se reporte à il y a plusieurs années, nos arrière-grands-parents, quand c'était le temps de manger, bien écoutez, la façon d'apprêter les aliments, c'était assez simple. Hein? On faisait bouillir ou on mangeait tout simplement cru. Maintenant, on peut rissoler les aliments, on peut les rôtir. Donc, toutes ces façons de transformer les aliments peuvent augmenter le pouvoir allergénisant de ceux-ci. Ah ouais. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi on a beaucoup plus d'allergies aux arachides et aux noix qu'on en avait il y a environ 30 ans.
Mais il y a également davantage d'aliments transformés sur nos tablettes à l'épicerie.
Oui, tout à fait. Il y a davantage d'aliments transformés et on pense que c'est un des facteurs, mais non pas le seul, pour expliquer pourquoi on a de plus en plus d'allergies alimentaires. Aussi, c'est qu'au niveau de notre mode de vie, on a une diète qui est de plus en plus variée. Hein. Vous savez, maintenant, on peut manger des pains multigrains qui vont contenir 10, 15, 25 grains. Et on pense que d'introduire à un certain âge beaucoup d'aliments divers, bien, ça augmente un peu le risque d'en développer une allergie.
OK. Est-ce que la prévalence des allergies est la même partout dans le monde? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a plus au Canada qu'au Vietnam, par exemple?
Bien, la prévalence des allergies change effectivement dépendamment de votre région géographique où vous habitez. Si on prend, par exemple, le cas des allergies respiratoires, bien, vous savez, dans certaines régions du monde, il n'y a pas de bouleau. Par contre, si vous êtes dans des climats plus tempérés, comme au Québec, bien, c'est un des allergènes principaux. Maintenant, si vous regardez au niveau alimentaire, bien, dépendamment où est-ce qu'on se trouve, la diète alimentaire n'est pas la même. Et effectivement, dans certaines régions du monde, comme la Chine ou le Vietnam, où on fait, par exemple, bouillir les arachides plutôt que les rôtir, bien, vous allez peut-être avoir moins de cas d'allergie alimentaire dans ces régions. Mmh. Et finalement, une des théories qui peut expliquer pourquoi que la prévalence des allergies est différente, par exemple, entre les pays industrialisés et d'autres pays, bon, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'hygiène. C'est qu'on pense qu'on est trop propre. Oui. Pour expliquer un peu à nos auditeurs ce qu'est la théorie de l'hygiène, on pourrait dire de façon un peu imagée que notre système immunitaire tolère très, très mal le chômage. Donc, notre système immunitaire, sa fonction première, c'est quoi? C'est de nous défendre contre les infections, que ce soit des virus, des bactéries ou des champignons. Au Canada, aux États-Unis et en Europe, on a un accès très facile aux antibiotiques. Et maintenant, c'est une manie qu'on voit de plus en plus fréquemment d'éviter tous les contacts possibles avec les agents pathogènes. Et on est très, très rapide à se mettre donc du Purel ou de l'alcool désinfectant sur les mains. Donc, on vit dans un milieu un peu aseptisé, un milieu qui est un peu propre. Donc, notre système immunitaire qui n'est plus en contact avec les infections, plutôt que se tourner les pouces, décide de faire des anticorps différents, pas des anticorps qui vont nous protéger contre les infections, mais une catégorie complètement différente d'anticorps dirigée contre des substances qui sont inoffensives. Et ça va donner lieu à des manifestations allergiques.
Donc, notre corps travaille trop fort.
Disons qu'il y a eu une déviation des fonctions de notre système immunitaire.
Mm-hmm. Maintenant, tout ça a des impacts sur notre santé globale. Qu'est-ce que ça attaque lorsqu'on a une crise d'allergie, lorsque l'on est allergique? Qu'est-ce qui est touché dans notre corps et dans notre santé globale?
Alors, les allergies peuvent se manifester dans différents organes. Si vous respirez l'allergène ou s'il entre en contact avec vos yeux, vous allez souffrir d'une rhinite allergique ou d'une conjonctivite allergique. Donc, une inflammation de la muqueuse du nez ou de la muqueuse des yeux. Si l'allergène descend au niveau des bronches, à ce moment-là, l'inflammation des poumons pourrait donner lieu à une crise d'asthme. Lorsque l'allergène est ingéré ou qu'il est injecté, on peut avoir des manifestations cutanées, donc on parle d'urticaire. Cependant, tous les cas d'urticaire ne sont pas dus à des allergies, mm-hmm. mais certains types d'allergies peuvent se manifester par de l'urticaire. Et donc, lorsque l'allergène est injecté ou ingéré, on a un spectre de manifestations cliniques. Ça peut être une atteinte cutanée isolée, mais on peut avoir également de l'enflure au niveau des lèvres, au niveau de la langue, au niveau des voies respiratoires. Et à ce moment, on peut développer des symptômes dans d'autres organes, comme au niveau des poumons, au niveau du tube digestif. C'est ce qu'on appelle donc l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est une manifestation qui est assez dangereuse, qui est assez sévère, qui va toucher différents organes en même temps. Et la manifestation la plus sévère de l'allergie, on connaît tous le mot, c'est le choc anaphylactique. Donc, quand on parle de choc anaphylactique, ce n'est pas simplement une réaction d'enflure au niveau des lèvres. On mentionne à ce moment qu'il y a même une atteinte vasculaire. Donc, vous allez avoir la pression artérielle qui va diminuer, ce qui va donner des symptômes d'étourdissement, mais de perte de connaissance également, et ça peut être dangereux.
Oui, c'est la réaction la plus sévère.
Effectivement.
Oui. Maintenant, comment on détermine le moment où l'on se dit, OK, je dois consulter. Est-ce que ce sont des réactions à répétition? Est-ce que c'est un choc de ce type de sévérité-là? À quel moment vous conseillez d'aller chercher un avis médical, un avis professionnel?
Du moment où est-ce qu'il y a apparition de symptômes compatibles avec une allergie, je pense qu'à tout de moins, on doit en parler avec son professionnel de la santé. Souvent, les médecins en première ligne ont quand même de bonnes connaissances sur les allergies. Maintenant, est-ce que tous les patients doivent être référés vers un spécialiste en allergie? Mm-hmm. Bon, actuellement, les choses risquent d'être un peu compliquées. Si on pense que 2 millions de la population québécoise souffre d'allergies, c'est sûr que pour 67 immunoallergologues, c'est un peu David contre Goliath et David avec une jambe dans le plâtre. Donc, c'est un travail, c'est un combat qui est un peu inégal. Bon nombre de patients souffrent d'allergies, mais sont plus ou moins importunés. Ils vont consommer à ce moment-là des médicaments à vente libre dans les pharmacies et vont passer un très bel été. Cependant, du moment où est-ce qu'on parle de l'allergie respiratoire, les symptômes ne sont plus contrôlés et viennent entacher la qualité de vie, je pense qu'il y a lieu de consulter vers un médecin spécialiste qui s'y connaît en allergie. Maintenant, du point de vue de l'allergie alimentaire, une allergie alimentaire, on ne peut pas la banaliser. Et ce qui est problématique avec l'allergie alimentaire, c'est qu'on ne peut jamais prédire le devenir. Il y a un mythe où est-ce qu'on pense qu'une allergie alimentaire est pire de fois en fois si on est exposé à l'allergène.
C'est pas vrai.
C'est pas
ça.
Tout à fait vrai. Okay. L'allergie alimentaire sur la réexposition peut être pire, mais la réaction peut être semblable, peut être moins pire également. Donc, puisqu'on ne peut pas prédire le devenir d'une réaction allergique alimentaire, il faut éviter l'aliment. Et consulter aussi un médecin spécialiste pour voir est-ce qu'on est réellement allergique à cet aliment. J'ai bon nombre de cas dans ma pratique où des gens étaient convaincus qu'ils étaient allergiques, par exemple, à une certaine protéine, par exemple, étaient allergiques au poulet qu'ils avaient consommé, mais ils ne s'étaient pas arrêtés au fait que le poulet avait été assaisonné et avait été badigeonné avec du sésame, qui est un allergène de plus en plus fréquent dans notre pratique. Donc, c'est important non seulement d'éviter l'aliment, mais aussi pour une prise en charge globale et adéquate, il faut voir un médecin, un allergologue.
En même temps, éviter certains aliments lors de la grossesse ne serait pas nécessairement efficace.
Effectivement. On a tous grandi un peu avec ces recommandations qui ont été mises à jour récemment, où est-ce qu'on disait que pour diminuer le risque d'allergie, peut-être il fallait éviter l'exposition à un aliment potentiellement allergénique pour les premières années de la vie. Et on recommandait même aux mères de ne pas consommer certains aliments. Donc, pas de lait, pas d'arachide, pas de noix.
Les aliments les plus allergènes.
Exactement. Maintenant, on sait que c'est une recommandation qui ne tient plus, que de retarder comme ça l'introduction d'allergènes alimentaires ne change rien au devenir des allergies. Et même, on a des évidences plus récentes qui disent, du moins par rapport aux arachides, que de les introduire plus tôt dans la vie aurait peut-être même un rôle protecteur, donc diminuerait le risque d'en développer une allergie.
Donc, qu'est-ce qui joue dans la balance des allergies en ce qui a trait à la prévention? Est-ce qu'on peut vraiment agir pour prévenir les allergies?
Oui, bien, c'est sûr que ce n'est pas... L'allergie vient aussi un peu de notre code génétique, de notre hérédité. On le sait, par exemple, un individu qui n'a aucun parent allergique a 15 % de risque de développer de l'allergie. Si un des deux parents a des allergies au sens large, que ce soit de l'eczéma, de l'asthme, du rhume des foins, si un des deux parents, donc, a des allergies, le risque que l'enfant en aille est environ de 30 % Par contre, si les deux parents sont allergiques, à ce moment-là, le risque de l'enfant est beaucoup, beaucoup plus élevé. On parle de 60 à 70 %. Donc, l'hérédité, prévention ou pas, on ne peut pas changer non plus son code génétique. Maintenant, en termes de prévention, si on parle de l'allergie alimentaire, une étude assez importante parue au printemps 2015 semblait démontrer que d'introduire certains aliments avant l'âge de 1 an, entre autres les arachides, pourrait augmenter la tolérance à l'aliment et donc de diminuer le risque d'en développer une allergie.
Très intéressant. Il y a l'allaitement aussi qui pourrait jouer dans la balance.
Oui, l'allaitement aurait peut-être un rôle protecteur, mais tout ce qui a trait à la grossesse et à l'allaitement, malheureusement, les données scientifiques sont inconsistantes. Donc, on ne peut pas émettre une ligne de conduite franche et claire.
On sait qu'il y a d'autres bienfaits, mais peut-être pas encore prouvés en ce qui a trait aux allergies.
Tout à fait.
En terminant, vos conseils pour une famille, un parent qui vient d'apprendre que son enfant est allergique, je vous le disais tout à l'heure, ça change vraiment le portrait d'une famille lorsqu'un enfant a un diagnostic d'allergie, notamment allergie alimentaire. Ça peut susciter énormément d'inquiétudes. Quelles seraient vos recommandations en ce sens?
Alors, peut-être 3 petits points rapidement. La première des choses, il ne faut pas banaliser non plus une allergie alimentaire, mais il faut relativiser les choses. Vous savez, quand on est allergique à un aliment, l'aliment ne saute pas non plus sur nous. Donc, pour en faire une réaction, il faut en consommer. Donc, des fois, il y a des gens qui, malheureusement, à tort, mais effectivement, il y a certaines exceptions. Certaines personnes qui vont croire que de sentir l'aliment va nécessairement causer une réaction. Il y a des cas d'exception, oui, certes, mais ce n'est pas l'ensemble des allergies alimentaires. Donc, il faut relativiser les choses sans les banaliser. Premier point. Deuxième point, il faut dire aussi à nos patients qui se sentent parfois démunis, et je pense aussi, entre autres, aux parents de patients aux prises avec des allergies alimentaires, ces patients-là ne sont pas seuls. Il y a des ressources en dehors des médecins qui peuvent les guider, les écouter et même les conseiller. Donc, je conseille à mes patients et aux parents de patients d'aller, par exemple, voir le site de Allergie Québec pour un complément d'information. Et le troisième point que je voudrais mentionner, c'est garder espoir. Vous savez, oui. Une allergie, c'est peut-être un peu dommage, mais certaines allergies alimentaires ont un bon pronostic. Certaines allergies vont partir avec le temps. Taux de résolution d'allergie au lait, aux œufs de 85 %. Et sachez que dans les années à venir, il y a quelque chose qui va changer le monde de l'allergie au Québec et au monde, c'est la désensibilisation. Donc, induire un état de tolérance par rapport à un allergène donné. On le fait actuellement pour les pollens, un peu pour les animaux, on le fait pour les acariens, mais éventuellement, ça sera disponible également pour les aliments. C'est sûr qu'on est encore à l'état de recherche, mais les résultats sont très encourageants et on devrait connaître ça de notre vivant.
Jean-Nicolas Boursicot, vous êtes allergologue et immunologue clinicien au CHU de Québec. Merci de votre visite. Vous étiez là pour nous parler du guide complet des allergies. C'est chez Édito. Ça a été un plaisir de vous recevoir.
Merci de l'invitation.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Chaline Ilan, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes chercheure au Centre de recherche du CHUM, également professeure à l'Université de Montréal, et là pour nous parler d'un service qui s'adresse aux jeunes âgés entre 11 et 25 ans, des jeunes qui vivent avec des problèmes de santé mentale et qui n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. 75 %, c'est énorme. Il y avait urgence d'agir, je pense, Chaline. Ça vient de là un petit peu, ce désir de mettre sur pied un programme.
C'est exactement ça et merci beaucoup pour porter l'attention sur le sujet de santé mentale. Exactement, cette initiative est née par le problématique qu'on sait que plusieurs problèmes de santé mentale se manifestent pour la première fois pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et la recherche nous indique que la majorité, comme vous avez mentionné, 75 % de ces jeunes-là qui éprouvent des problèmes de santé mentale n'accèdent pas les soins appropriés dont ils ont besoin. Et en plus, lorsque les jeunes commencent à chercher de l'aide du système de soins, ils rencontrent plusieurs défis, comme par exemple le besoin d'avoir une référence par un médecin généraliste, quand beaucoup des jeunes n'ont pas même un médecin de famille, ou bien le besoin de répéter les mêmes informations plusieurs fois. Ça prend aussi beaucoup de courage pour quelqu'un pour parler en personne.
Du temps aussi.
Du temps aussi pendant les heures à faire quand les jeunes sont déjà à l'école ou bien au travail. Alors, le processus d'accéder aux soins sont compliqués et on a plusieurs facteurs reliés avec la stigmatisation, mais aussi la façon dont laquelle nos systèmes de soins sont organisés pour faire la complexité pour les jeunes pour accéder aux soins. Mm-hmm. Et on sait aussi que plus en plus, les jeunes cherchent de l'information sur les problèmes de santé mentale en ligne. Alors, l'environnement en ligne, c'est une place où on a besoin de plus en plus d'attention de peut-être utiliser ces technologies-là pour faciliter le cheminement de leur accessoire à soins.
Votre programme de cybersanté, il est vraiment à ses premiers balbutiements, mais à quoi ça pourrait ressembler? Parce que vous avez déjà commencé à faire des tests, je pense notamment en collaboration avec Jeunesse J'écoute. Comment ça s'articule pour le moment?
Ouais. C'est ça, on ne développe pas des outils comme par le scratch. On essaie d'utiliser les technologies, les plateformes et les expériences dans la communauté, comme les expériences de Jeunesse J'écoute et aussi des expériences de l'industrie qui sont déjà en train de développer les technologies pour faire la gestion dans les systèmes de soins. Et premièrement, l'objectif de notre programme, c'est de vraiment diminuer les défis que les jeunes rencontrent lorsqu'ils essayent d'accéder les services en santé mentale. Alors, c'est ce qu'on va développer. C'est une plateforme technologique ou bien un cheminement aussi technologique qui va faciliter leur cheminement aux soins. Et cette plateforme technologique comporte trois volets en particulier. Alors, le premier volet, c'est un outil de référence directe et autonome où les jeunes peuvent faire une demande de consultation eux-mêmes.
Ah oui, wow.
Au service en santé mentale. Le deuxième volet, c'est que on va avoir un système de gestion de référence, parce que là, si on a toutes ces références qui vont venir, l'intervenant, il a besoin d'une façon de faire le triage de tout ça et faire le suivi de ses demandes. Alors, le deuxième volet, c'est un système de gestion de référence en ligne. Et le troisième volet, c'est une plateforme de communication où les jeunes peuvent communiquer avec les intervenants en utilisant les technologies auxquelles ils sont habitués, comme la clavardage en ligne, les textos et vidéoconférences. Et ça, c'était vraiment inspiré par les expériences de Jeunesse J'écoute, où pour plusieurs années, ils avaient la possibilité pour un jeune pour faire un appel et parler avec une intervenante. Et puis, dans les dernières années, ils ont aussi mis en place une plateforme où les jeunes peuvent faire un clavardage en ligne avec une intervenante. Et on voit que les jeunes qui font la clavardage en ligne, même s'ils ont une opportunité de faire un appel, ils vont choisir le processus ou le volet de clavardage.
Et parce qu'ils connaissent ça aussi, ils sont à l'aise, ils se sentent en sécurité avec cette façon. Et
exact.
C'est une façon de les responsabiliser face à leur santé.
Exactement, exactement. Et ces jeunes-là aussi, on voit que les jeunes aussi ont des préférences à choisir quel type de façon ils vont connecter pour la première fois avec une intervenante. Les jeunes qui vont sur le clavardage, souvent on voit qu'ils sont en plus détresse avec des idées suicidaires, etc.
Shalini, en terminant, il reste peu de temps. Est-ce que le projet, il est testé? Est-ce que déjà des jeunes peuvent aller sur la plateforme de cybersanté?
Non, exactement. Pas pour le moment. Merci pour porter attention à ça. Ça, c'est un projet pilote. Alors, pour la première année, on va développer cette processus de requête. Et puis après ça, on va commencer à tester ça dans 6 sites au Canada. Et l'idée, c'est de vraiment tester la feasibility, l'impact sur le système de soins, les expériences des jeunes et des intervenants.
Et à ce moment-là, Shalini, vous pourrez revenir nous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui devrait tenir à cœur toute la société. Je rappelle, vous êtes chercheur au Centre de recherche du CHUM et professeur à l'Université de Montréal. Merci. Merci Jean-Sébastien. Marianne Paquette, qui vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Bye-bye.